Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Évolution, karma et renaissance. Suite. Il existe aussi des exemples émouvants d'enfants qui se souviennent spontanément des détails d'une existence antérieure. De nombreux cas de ce genre ont été recueillis par le docteur Ian Stevenson de l'Université de Virginie. Le récit surprenant d'une enfant qui se souvenait d'une vie passée parvint aux oreilles du Dalai Lama. Celui-ci délégua un représentant spécial pour interroger la petite fille et vérifier ses dires. Elle s'appelait Kamaljit Kaur. C'était la fille d'un instituteur dans une famille sikh du Punjab, en Inde. Un jour, étant allée à la fête locale d'un village en compagnie de son père, elle demanda soudain à celui-ci de l'amener à un autre village, assez éloigné. Son père, surpris, lui en demanda la raison. « Je n'ai rien à faire ici, » répondit-elle. « Je ne suis pas chez moi. Je t'en prie, conduis-moi à ce village. » J'étais à bicyclette avec l'une de mes camarades d'école et nous avons été renversés par un autobus. Mon ami a été tué sur le coup. J'ai été blessé à la tête, à l'oreille et au nez. On m'a relevé du lieu de l'accident et allongé sur un banc devant un petit palais de justice à proximité. Puis on m'a amené à l'hôpital du village. Mes blessures saignaient abondamment. Et mes parents et les membres de ma famille sont arrivés. Puisque l'hôpital local n'était pas équipé pour me soigner, ils ont décidé de me transporter à Ambala. Là, comme les docteurs ont dit qu'ils ne pouvaient me sauver, j'ai demandé à ma famille de me ramener chez moi. Son père était bouleversé. Mais devant l'insistance de Kamaljit, il accepta de l'amener à ce village, tout en pensant que ce n'était là qu'un caprice d'enfant. Comme promis, ils s'y rendirent ensemble. Elle reconnut le village alors qu'ils en approchaient, désignant l'endroit où elle avait été heurtée par le bus. Elle demanda alors à monter dans un pousse-pousse, puis donna des indications au conducteur. Elle le fit arrêter quand il parvint à un groupe de maisons où elle prétendait avoir vécu. La petite fille et son père, abasourdis, se dirigèrent vers l'habitation qu'elle désigna comme ayant appartenu à son ancienne famille et son père. Toujours incrédule, demanda au voisin s'il y avait une famille correspondant à la description faite par Kamaljit et qui aurait perdu sa fille. Ils confirmèrent son histoire et racontèrent au père stupéfait que Rishma, la fille de cette famille, était âgée de 16 ans lorsqu'elle fut tuée. Elle mourut dans la voiture à son retour de l'hôpital. À ces mots, Le père fut extrêmement déconcerté. Et il dit à Kamaljit qu'il leur fallait rentrer. Mais celle-ci se dirigea tout droit vers la maison et demanda sa photo d'école, qu'elle contempla avec ravissement. Quand le grand-père et les oncles de Rishma arrivèrent, elle les reconnut et sut dire leur nom sans se tromper. Elle désigna sa chambre et montra à son père les autres pièces de la maison. Puis elle voulut voir ses livres d'école, ses deux bracelets d'argent, ses deux rubans et son ensemble Bordeaux tout neuf. La tante déclara que tous ces objets avaient appartenu à Rishma. Kamaljit conduisit alors la famille à la maison de son oncle, où elle identifia d'autres objets. Le jour suivant, elle rencontra tous les membres de son ancienne famille, et quand arriva l'heure de prendre le bus pour rentrer à la maison, elle refusa de partir, annonçant à son père qu'elle était décidée à rester. Finalement, il réussit à la persuader de revenir avec lui. La famille entreprit de reconstituer l'histoire. Kamaljit était né 10 mois après la mort de Rishma. Bien que la petite fille n'allait pas encore en classe, elle faisait souvent semblant de lire sur la photo d'école de Rishma. Elle se souvenait du nom de tous les élèves. Kamaljit Kaur réclamait toujours des vêtements de couleur bordeaux. Ses parents apprirent que Rishma avait reçu un nouvel ensemble bordeaux, dont elle était très fière, mais qu'elle n'avait pas eu l'occasion de porter. La dernière chose que Kamaljit se rappelait de sa vie passée était les phares de la voiture s'éteignant au retour de l'hôpital. C'était sans doute à ce moment-là qu'elle était morte. Bien sûr, j'imagine aisément comment certains pourraient tenter de discréditer ce témoignage. Ils pourraient alléguer que c'était peut-être pour des raisons personnelles que la famille de la petite fille l'avait encouragée à prétendre qu'elle était la réincarnation de Rishma. Il est vrai que Rishma venait d'une famille de riches fermiers, mais la famille de Kamaljit n'était pas pauvre non plus. Elle possédait l'une des plus belles maisons du village, flanquée d'une cour et d'un jardin. Ce qui surprend dans cette histoire, c'est que sa famille actuelle était finalement plutôt mal à l'aise et inquiète du qu'en dira-t-on. Cependant, je trouve encore plus éloquent que les membres de la famille de Rishma, bien que très peu versés dans les questions religieuses et ignorant même si les Sikhs acceptent l'idée de la réincarnation, se soient montrés absolument certains que Kamaljit Kaur était bien leur Rishma. À toute personne souhaitant sérieusement étudier la possibilité d'une vie après la mort, je suggère de lire les témoignages très émouvants de ceux qui ont connu une expérience de proximité de la mort. Un nombre étonnant de ceux qui ont vécu une expérience de cette nature ont acquis la conviction que la vie continue après la mort. Beaucoup n'avaient aucune croyance religieuse, ni aucune expérience spirituelle. Aujourd'hui et pour le reste de ma vie, je conserve la conviction que la vie continue après la mort. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute pour moi, et je n'ai pas peur de mourir. Absolument pas peur. Je connais des gens qui ont cette peur, cette terreur. J'ai toujours envie de sourire quand je les entends douter qu'il y ait un au-delà ou décréter. Après la mort, il n'y a rien. Alors, je pense intérieurement, ils ne savent pas. Ce qui m'est arrivé à ce moment-là est l'expérience la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue. Il m'a fait réaliser qu'il existe bien une vie après la vie. Je sais qu'il y a une vie après la vie. Personne ne m'en fera douter. J'en suis certain. C'est paisible. Il n'y a rien à craindre. Je ne sais pas ce qu'il y a au-delà de ce dont j'ai fait l'expérience, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. Cette expérience m'a donné une réponse à la question que chacun se pose sans doute un jour. Ou l'autre de sa vie. Oui, il y a bien une après-vie. Plus belle que tout ce qu'on peut imaginer. Une fois qu'on sait ce que c'est, rien ne peut lui être comparé. On sait, tout simplement. Les études sur ce sujet montrent également que ceux qui ont connu une expérience de proximité de la mort sont ensuite plus ouverts et plus enclins à accepter l'idée de la réincarnation. Et que dire du talent exceptionnel pour la musique ou les mathématiques dont font preuve certains enfants prodiges? Ne pourrait-on supposer qu'il s'est développé dans des vies antérieures? Songez à Mozart qui composait des menuets à l'âge de 5 ans et à 8 ans, publiait des sonates. Si la vie après la mort est une réalité, vous êtes en droit de vous demander pourquoi il nous est si difficile de nous en souvenir. Platon, dans le mythe d'Ère, suggère une explication à cette perte de mémoire. Ère était un soldat qui, laissé pour mort lors d'une bataille, connut, semble-t-il, une expérience de proximité de la mort. Il observa bien des choses pendant son trépas et reçut la mission de revenir à l'existence afin de dépeindre aux vivants l'état après la mort. Juste avant son retour, il vit ceux qui se préparaient à naître. Ils avançaient par une chaleur torride et étouffante dans la plaine de l'oubli, un désert entièrement dépourvu d'arbres et de plantes. Le soir venu, les âmes campèrent au bord du fleuve de la négligence, dont aucun vase ne peut contenir l'eau. Chaque âme doit boire une certaine quantité de cette eau. Mais celles que ne retient point la prudence en boivent plus que de raison. En buvant, on perd le souvenir de tout. R n'eut pas la permission de boire de cette eau et revint à lui sur le bûcher funéraire. Ayant gardé le souvenir de tout ce qu'il avait vu et entendu. Existe-t-il une loi universelle qui nous interdise de nous rappeler ce que nous avons vécu auparavant et où nous nous trouvions? Ou bien est-ce l'ampleur même de nos expériences, leur étendue et leur intensité qui ont effacé toute mémoire de nos vies passées? Je me demande parfois s'il nous serait vraiment utile de nous en souvenir. Ne serait-ce pas plutôt une source de confusion supplémentaire? La continuité de l'esprit. Selon l'approche bouddhiste, l'argument principal établissant la vérité de la renaissance se fonde sur une compréhension profonde de la continuité de l'esprit. Quelle est l'origine de la conscience ? elle ne peut surgir de rien. Un moment de conscience ne peut se produire sans le moment de conscience qui l'a immédiatement précédé. Sa sainteté, le Dalai Lama, explique ainsi le processus complexe. L'acceptation bouddhiste du concept de renaissance est basée principalement sur la notion de continuité de la conscience. Prenons par exemple le monde physique. Nous considérons que l'on peut remonter à l'origine de tous les éléments de notre univers actuel, et même à un niveau microscopique, jusqu'à un point initial où tous les éléments du monde matériel sont condensés dans ce que l'on appelle en termes techniques des particules d'espace. Ces particules sont à leur tour l'état résultant de la désintégration d'un univers précédent. Il existe donc un cycle constant dans lequel l'univers évolue, se désintègre et revient à l'existence. Notre esprit fonctionne de manière analogue. Il est tout à fait évident que nous possédons ce que nous appelons un esprit ou une conscience. Notre expérience en témoigne. Il est aussi manifeste, toujours de par notre expérience, que ce que nous appelons esprit ou conscience est sujet au changement, quand il est exposé à différentes conditions et circonstances. Cela nous montre sa nature véritable, d'instant en instant, sa prédisposition à se modifier. Il est également évident qu'au niveau le plus grossier, l'esprit ou conscience est intimement lié aux états physiologiques du corps. En fait, il dépend d'eux. Mais il doit exister une certaine base, une énergie, une source, qui permette à l'esprit, dans son interaction avec les particules matérielles, de produire des êtres vivants, conscients. Tout comme au plan matériel, cette base est aussi sans aucun doute en continuité avec le passé. Si donc vous remontez à l'origine de notre esprit actuel, de notre conscience présente, vous vous apercevrez que, de même que pour l'origine de l'univers matériel, vous remontez à l'origine de la continuité de l'esprit, jusqu'à une dimension infinie. Comme vous pouvez le constater, la continuité de l'esprit est sans origine. Par conséquent, il doit exister des renaissances successives pour rendre ce continuum de l'esprit possible. Le bouddhisme croit en la causalité universelle. Tout est soumis au changement, à des causes et à des conditions. Il n'accorde donc aucune place à un créateur divin, ni à une génération spontanée des êtres. Tout se manifeste au contraire comme une conséquence de causes et de conditions. Ainsi, l'état présent de l'esprit ou conscience résulte de ses instants précédents. Les causes et conditions dont nous parlons sont principalement de deux types. Les causes substantielles, qui sont à l'origine de ce qui se produit, et les différents facteurs qui contribuent à produire la situation de causalité. Dans le cas de l'esprit et du corps, bien que l'un puisse affecter l'autre, l'un ne peut pas devenir la substance de l'autre. Bien que l'esprit et la matière dépendent l'un de l'autre, l'un ne peut être la cause substantielle de l'autre. C'est sur cette base que le bouddhisme accepte la notion de renaissance. La plupart des gens considèrent que le terme réincarnation implique quelque chose qui se réincarne, qui voyage de vie en vie. Mais nous ne croyons pas dans le bouddhisme en une entité indépendante et immuable, telle que l'âme ou l'ego, qui survivrait à la mort du corps. Ce qui assure la continuité entre les vies n'est pas d'après nous une entité, mais la conscience à son niveau ultime de subtilité. Selon l'explication bouddhiste, dit le Dalai Lama, le principe créateur ultime est la conscience. Il existe différents niveaux de conscience. Ce que nous appelons la conscience subtile, la plus profonde, est toujours présente. La continuité de cette conscience est en quelque sorte permanente, comme les particules d'espace. Ce qui correspond aux particules d'espace dans le champ de la matière est, dans le champ de la conscience, la claire lumière. La claire lumière, avec son énergie particulière, assure le lien avec la conscience. L'exemple suivant illustre bien le processus exact de la renaissance. Les vies successives d'une série de renaissances ne sont pas semblables aux perles d'un collier, maintenues ensemble par un fil, l'âme, qui passerait à travers les perles. Elles ressemblent plutôt à des dés, empilés l'un sur l'autre. Chaque dé est séparé, mais il soutient celui qui est posé sur lui et avec lequel il a un lien fonctionnel. Les dés ne sont pas reliés par l'identité, mais par la conditionnalité. Les écritures bouddhistes nous offrent un exposé très clair de ce processus de conditionnalité. La série de réponses du sage bouddhiste Nagasena aux questions posées par le roi Milinda est célèbre à ce sujet. Le roi demande à Nagasena : quand une personne renaît, est-elle identique à celle qui vient de mourir ou différente ? Elle n'est pas identique, répond Nagasena, et elle n'est pas différente. Dis-moi, si un homme allume une lampe, peut-elle brûler toute la nuit ? Oui. La flamme qui brûle dans la première veille de la nuit est-elle la même que celle qui brûle dans la deuxième veille ou dans la dernière ? Non. Cela signifie-t-il qu'il y a une lampe dans la première veille, une autre dans la seconde ou encore une autre dans la troisième ? Non, c'est grâce à une seule lampe que la lumière brille toute la nuit. Il en va de même de la renaissance. Un phénomène se produit et un autre cesse, simultanément. Ainsi, le premier acte de conscience dans la nouvelle existence n'est ni identique au dernier acte de conscience dans l'existence précédente, ni différent de lui. Le roi souhaite un autre exemple afin d'élucider la nature précise de ce rapport. Nagasena utilise la comparaison avec le lait. Le lait caillé, le beurre ou le ghee que l'on obtient à partir du lait ne sont pas identiques au lait, mais leur production en est entièrement dépendante. Le roi demande alors s'il n'existe pas d'êtres qui passent de corps en corps. Ne sommes-nous pas libres de toutes les actions négatives de nos vies passées ? Nagasena lui donne cet exemple. Un homme vole des mangues. Les mangues qu'il dérobe n'étant pas les mêmes que celles que le propriétaire possédait et avait plantées à l'origine. Pourquoi donc le voleur devrait-il être puni? La raison, dit Nagasena, est la suivante. Si les mangues volées ont poussé, c'est à cause de celles que leur propriétaire avait plantées au départ. De la même façon, c'est à cause de nos actions pures ou impures dans une vie que nous sommes liés à une autre vie. Et nous ne sommes pas libres de leurs conséquences. C'était le livre tibétain de la vie et de la mort, évolution, karma et renaissance. Suite dans la prochaine émission, le karma. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension.